Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Et si la tendance s'inversait après un exode massif, les Lituaniens sont peut-être en train de revenir au pays. En 30 ans, le petit État balte a perdu 500 000 habitants sur une population totale de 3 millions. Une fuite des cerveaux vers l'Europe occidentale, y compris le Royaume-Uni. Mais avec le Brexit, de nombreux actifs commencent à comprendre que leur pays natal a aussi de nombreux avantages. Depuis le mois de mai, le solde migratoire est positif dans le pays. Illustration à Tauragė, une petite ville de l'ouest de la Lituanie où les retours sont bien visibles. Reportage signé Marielle Vituro.
Dans la pâtisserie d'Arunas Binkis, les 12 employés emballent et empaquettent toute la journée. Dans les dizaines de cartons, toutes sortes de décorations en sucre, des roses, des anges ou des guirlandes de fleurs destinées à orner des pièces montées. Leur destination, la foire professionnelle de Munich, où Arunas Binkis cherchera de nouveaux clients dans quelques jours. Cela fait maintenant 5 ans qu'il est revenu en Lituanie, où il poursuit l'activité qu'il avait créée à l'étranger.
Nous avons vendu nos décorations en sucre pendant 4 ans en Angleterre. Cela marchait bien et nous avons pensé que nous pourrions faire la même chose de Lituanie en les vendant par Internet pour être plus proche de notre famille et de nos racines. Et puis en Lituanie, les coûts de production sont bien plus bas, notamment la location et les salaires.
Spécialiste des questions démographiques, ces retours en hausse n'étonnent pas Boguslavas Gruževskis.
La situation économique se stabilise en Lituanie. Dans certains secteurs, les salaires ont augmenté de près de 20%. La politique sociale se développe. Tout cela encourage les Lituaniens à revenir dans leur pays. Le Brexit a apporté beaucoup d'instabilité et dans ce contexte, la Lituanie offre des avantages pour développer sa société et avoir déjà des liens à l'étranger. Cela facilite le tout.
À Tauragė, l'histoire de l'entrepreneur n'a rien d'extraordinaire. Impossible pour le maire de chiffrer précisément ses retours, mais pour Sigitas Mičiulis, un indicateur ne trompe pas.
Les jardins d'enfants sont complets. Ces 3 dernières années, nous avons ouvert 2 nouvelles classes à chaque rentrée. Cette année, nous avons 9 classes supplémentaires, mais il y a encore plus d'une centaine d'enfants sur liste d'attente.
Le parc industriel de Tauragė est l'un des plus grands employeurs de la ville. Plusieurs sociétés à capitaux étrangers s'y sont installées. Rimas et Guérené fabriquent des vêtements pour une firme danoise. 15% des employés sont des Lituaniens revenus de l'étranger. Ils sont pour elle le moteur de la transformation de la ville.
Le complexe sportif vient d'être rénové. Une piscine est en cours de construction. La ville n'en a plus depuis très longtemps. Et puis pour la rentrée scolaire, tous les élèves de primaire ont reçu un kit de fourniture. Des cahiers, des stylos, des crayons. C'est une aide considérable.
Mais pour inciter les Lituaniens à revenir, la mairie de Tauragė a mis au point une stratégie bien particulière, en plus des aides financières aux entreprises et différentes prestations sociales. Elle tient un registre des personnes qui ont quitté la ville. Sigitas Mičiulis.
Nous avons décidé de créer cette banque de données de la diaspora pour savoir qui a fait une carrière importante à l'étranger. Certains compatriotes peuvent être en contact avec des investisseurs qui souhaitent investir en Lituanie et qui pourraient être intéressés par la situation ici.
La ville a désormais des ambassadeurs dans le monde entier qui, de temps à autre, financent par exemple une bourse pour des élèves méritants. Installé dans sa boucherie, Robertas Lauranchas estime que cette jolie utopie peut à terme porter ses fruits. Après avoir fait la navette entre la Lituanie et la Norvège, il a décidé, fatigué de ses allers-retours, de revenir dans sa ville natale.
J'ai voulu ouvrir une boucherie à l'européenne, comme j'en ai connu à l'étranger. Ici, nous découpons la viande et c'est assez inhabituel pour les habitants.
Mais les débuts sont plutôt chaotiques. Il doit souvent repousser la tentation de claquer la porte et de repartir.
La période d'adaptation a été difficile. La Norvège et la Lituanie sont deux mondes très différents et les relations entre les habitants et les institutions aussi. Je dois encore avoir une solution de repli. Ma femme a un travail salarié qui nous permettrait de nous en sortir pendant quelques mois si la boucherie avait des difficultés.
Tout faire pour que les petites villes lituaniennes ne meurent pas est une lutte incessante. À Tauragė, le maire se bat maintenant pour que l'institut de formation professionnelle ne soit pas déplacé vers une ville plus grande. Les dernières tendances démographiques ont certes de quoi réjouir, mais rien n'est encore joué définitivement.
Le gouvernement hongrois à nouveau dans la ligne de mire du Parlement européen, alors que le Premier ministre Viktor Orban doit s'expliquer devant l'Assemblée sur toute une série de mesures liberticides, les eurodéputés doivent voter demain sur un éventuel déclenchement de l'article 7 du traité européen, un article qu'on appelle l'arme de dissuasion nucléaire qui peut priver un pays de son droit de vote dans les instances européennes. Pour en parler, on retrouve notre correspondante à Budapest, Florence Labruyère. Bonjour Florence, le Parti populaire européen, première formation du Parlement européen, a longtemps soutenu Viktor Orban malgré l'adoption de ses lois jugées liberticides. Est-ce qu'il est en train de le lâcher ?
Eh bien, en tout cas, le malaise est perceptible sur les bancs du PPE des conservateurs européens, car il est clair qu'un régime autoritaire est en train de s'installer en Hongrie. Un rapport récent, rédigé à la demande du Parlement, par l'eurodéputée Judith Sargentini, décrit la grave détérioration de l'état de droit en Hongrie. La Cour constitutionnelle a été privée de presque toutes ses compétences. Les ONG sont harcelées et criminalisées, comme en Russie. La liberté de l'enseignement et la liberté de la presse sont en péril. Car non seulement les médias publics sont à la botte du gouvernement, mais le clan de Viktor Orban a fait main basse sur 90% des médias privés, et sans parler de la corruption qui sévit au plus haut niveau de l'État. Alors ce rapport ayant été adopté à la majorité par une commission du Parlement européen, ce dernier doit voter sur cette question. Le Parlement ne peut pas lui-même initier l'article 7, mais demain il votera pour recommander ou non à l'exécutif européen de le faire.
Oui, ce fameux article 7 dont les conséquences sont très graves a été déclenché pour la première fois en décembre dernier par la Commission européenne contre la Pologne. Mais la Commission a donné de larges délais et finalement, 7 mois plus tard, rien ne se passe. Est-ce que ça ne risque pas d'être la même chose pour la Hongrie ?
Effectivement, cette procédure très longue a peu de chances d'aboutir, car si demain le Parlement européen recommande à la Commission de déclencher l'article 7, il faudra ensuite que tous les États membres votent à l'unanimité pour priver la Hongrie de son droit de vote. Or, la Pologne, qui soutient la Hongrie, a toujours dit qu'elle voterait non. Donc cet article 7 est finalement impossible à appliquer. Mais le lancement de la procédure serait tout de même une gifle symbolique pour Viktor Orban.
Et dans quel état d'esprit le Premier ministre hongrois aborde-t-il ce débat ?
Eh bien, depuis quelques jours, son entourage répète que si les eurodéputés votent contre la Hongrie, cela voudra dire que le vote a été manipulé. Signe que Viktor Orban n'est pas sûr de l'issue du scrutin et qu'il prépare peut-être son opinion à un désaveu. Et pendant ce temps, il y a des tractations en coulisses. Le chef du PPE, Manfred Weber, aurait téléphoné à Orban pour lui demander d'abroger deux lois, celle qui criminalise les ONG et celle qui vise à bannir de Budapest l'Université d'Europe centrale. En échange, Weber aurait assuré Orban de son soutien. Donc finalement, aujourd'hui, les cartes sont dans les mains du Premier ministre hongrois. Il a toujours su tirer son épingle du jeu en évitant la confrontation au dernier moment. Et puis, les élections européennes ont lieu au printemps prochain. Alors, pour optimiser ses chances, le PPE a peut-être intérêt à garder Orban dans ses rangs et à ne pas le froisser. Et ça, c'est un facteur qui joue en faveur du Premier ministre hongrois.
Merci Florence Labruyère à Budapest. La marche pour le climat, les Berlinois l'ont fait en juin dernier à vélo, sous la pression de plusieurs activistes et des habitants. Le Parlement régional a adopté une loi vélo. 100 km de voies cyclables en propre, rien que pour cette année, et des projets de plusieurs dizaines de milliers de places de parking. La petite reine à la côte dans la capitale allemande. Reportage de Déborah Berlioz.
9h du matin dans le centre de Berlin. À chaque feu rouge, la file de vélos s'étend sur 20 mètres au moins. En tout, près de 500 000 bicyclettes sillonnent chaque jour les rues de la capitale. Et le vélo est le mode de circulation préféré de 15% des habitants. John, par exemple, fait 20 km chaque jour pour se rendre au travail. Avec sa casquette de cycliste et son vélo de course, ce trentenaire n'a pas peur des voitures.
Je pense que nous avons assez de pistes cyclables. On a parfois des ennuis avec les automobilistes, mais bon, c'est normal en vélo. Il faut partager la rue.
À l'inverse, Sina n'est pas une adepte de la petite reine.
Dans le quartier de Wedding, par exemple, il faut rouler sur la route. Il y a souvent des automobilistes qui ouvrent leurs portières sans faire attention ou qui se garent en double file. On se fait doubler par des camions. J'ai tellement peur que je n'aime vraiment pas traverser la ville en vélo.
La jeune étudiante n'a jamais eu d'accident, mais elle en a observé plus d'un. L'an dernier, 10 cyclistes sont décédés sur les routes berlinoises et plus de 680 ont été gravement blessés. Pourtant, le deux-roues n'intéressait guère les politiciens locaux jusqu'à maintenant. De quoi agacer Heinrich Strassenreuter, un Berlinois écolo et accro au vélo.
Le précédent gouvernement de la ville de Berlin se disait pour le vélo. Mais concrètement, il ne faisait rien. La ville dépensait 3,70 euros par habitant, par an, pour la circulation à vélo. C'est le prix d'un verre de bière. Ce montant est vraiment ridicule comparé aux dépenses pour la voiture, qui étaient de 80 euros par an et par habitant.
Cet activiste a donc décidé de prendre les choses en main. Lui et d'autres militants ont rédigé courant 2016 une loi sur le trafic à vélo. L'idée étant de faire adopter cette législation par les Berlinois grâce à un référendum d'initiative populaire. Pour organiser cette consultation, il leur fallait d'abord 100 000 signatures. Ils les ont réunis en moins de 3 semaines, du jamais vu dans la République fédérale.
Grâce à ces 100 000 signatures, le vélo est devenu l'un des 5 thèmes politiques les plus importants à Berlin. L'extrême gauche et les Verts se sont emparés du sujet. Quant aux sociaux-démocrates, aux libéraux et aux conservateurs, ils ont également admis qu'il fallait s'occuper davantage des deux roues. Certes, ils ont dit qu'il ne fallait pas oublier la voiture, mais c'est déjà un grand changement rhétorique pour ces trois partis.
À l'automne 2016, les sociaux-démocrates gagnent les élections locales à Berlin et s'associent aux Verts et à l'extrême gauche pour gouverner. Dans leur contrat de coalition, ils s'engagent à adopter une loi de mobilité afin d'accorder plus de place au vélo dans la ville. Heinrich Strassenreuter et ses compagnons militants participent à l'écriture du texte. Une collaboration qui ne s'est pas déroulée sans accroc, se souvient Tino Schopf. Il est chargé des transports au sein de la fraction social-démocrate du Parlement de Berlin.
Quand ils ont écrit la loi, les militants voulaient par exemple que la ville rénove 70 carrefours dangereux chaque année. Mais l'administration, qui était aussi à la table des négociations, a dit que c'était impossible. Ils n'en avaient rénové que 5 l'année précédente. Il faut dire que cela ne se fait pas d'un trait de plume, ça demande de gros travaux.
Pas moins de 17 réunions seront nécessaires pour que les différents acteurs tombent d'accord. La loi a été adoptée au Parlement fin juin. Elle prévoit notamment la construction de 100 km de pistes cyclables rien que cette année et de 100 000 places de stationnement pour vélo d'ici 2025. Mais la loi met surtout l'accent sur la sécurité. Les nouvelles voies pour les vélos doivent faire au moins 2 mètres de large et seront protégées du trafic par des poteaux. Elles seront également peintes en vert pour plus de visibilité. Le budget vélo de Berlin va ainsi passer à 51 millions d'euros par an, soit 5 fois plus qu'en 2017. Toutefois, il ne suffit pas de faire des travaux pour assurer la sécurité des cyclistes, selon Tino Schopf.
Nous voulons renforcer l'escadron à vélo de la police berlinoise. Pour l'instant, nous n'avons que 19 officiers qui patrouillent dans le quartier de Mitte. Mais nous voulons engager plus de monde et étendre leur service à l'ensemble des quartiers.
La ville prévoit également d'engager près de 60 personnes pour gérer l'aménagement des nouveaux espaces dédiés au vélo. Heinrich est donc comblé. Et le militant est d'autant plus heureux que son mouvement a fait des émules. Des initiatives similaires à la sienne sont nées dans une dizaine de villes dans tout le pays.
È buono anche col pensiero. Ma chissà perché è meglio quello vero. Il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è.
Aux sources du café en Italie, la boisson emblématique du pays a désormais son musée à Turin, chez le père fondateur de la marque Lavazza. Visite avec Cécile Debarge.
Un immense comptoir rond, des dizaines de tiroirs, des balances, des poids et de petits sachets de papier craft remplis de café scellés par l'autocollant du magasin. Voilà à quoi ressemblait le magasin de Luigi Lavazza en 1910. C'est là qu'est né un empire, celui de la plus célèbre des marques de café italien. Chaque année, 27 milliards de tasses de café d'espresso Lavazza sont vendues dans plus de 80 pays. Tout commence en 1894 quand cet épicier installé en plein cœur de Turin achète son café encore cru pour le torréfier lui-même puis le vendre à ses clients. On découvre sur de vieux registres présents au musée ses premières recettes où il mélange des cafés venus du Venezuela, du Mexique ou bien d'Haïti jusqu'à obtenir le mélange parfait. On peut sentir le parfum des caféiers, découvrir les différents stades de torréfaction du café ou bien découvrir comment se fabrique une capsule de café. Le musée, ouvert au mois de juin, fait partie de cette génération de musées ultra-modernes où les visiteurs activent le contenu qu'ils souhaitent grâce à une tasse interactive qui raconte en direct l'histoire de la marque.
Après la période difficile de la Seconde Guerre mondiale, Lavazza repart à la conquête du marché des bars et des lieux publics de toute l'Italie. À l'Expo Universelle de Milan, en 1952, la marque fait goûter une nouvelle mixture d'espresso. Quand quelques années plus tard arrive le boom économique, Lavazza est prêt.
Face aux visiteurs qui écoutent cette petite histoire, la copie du premier bar roulant, un camion orange résolument années 60 qui a parcouru des milliers de kilomètres pour faire découvrir aux Italiens la marque de café. Mais l'anecdote la plus insolite a la forme d'un cube blanc et transparent qui est en fait la première machine à espresso ayant permis à l'astronaute Samantha Cristoforetti de déguster le 3 mai 2015 son premier espresso spatial. Retournez sur Terre et finissez cette visite par un vrai café à choisir parmi de grands crus que vous offre la barista de la dernière pièce du musée.
Si comme tous les Turcs, vous croyez au mauvais œil, vous portez peut-être une petite amulette bleue en forme d'œil censée éloigner le malheur. En Turquie, un village a même fait une spécialité de sa production artisanale. Mais aujourd'hui, le village de Nazarköy a bien du mal à perpétuer la tradition. En Turquie, à Nandlaouar.
À l'approche de Nazarköy, un village un peu perdu dans l'arrière-pays d'Izmir, on trouve son chemin comme le petit poussé, à cette différence près que d'étranges objets bleus remplacent les cailloux blancs du conte de Charles Perrault. Ces objets, ce sont des yeux en verre que l'on appelle en turc les nazar boncuğu. Le nazar, un mot d'origine arabe, désigne en turc le mauvais œil, celui qui regarde avec jalousie ou envie et apporte le malheur à celui qui est regardé. C'est là qu'intervient, selon la croyance populaire, le nazar boncuğu, mot à mot la perle de Nazar, censée protéger celui qui la porte contre le mauvais œil. Cette petite amulette bleue, les Turcs l'accrochent partout, dans leur maison, dans leur voiture, sur la gigoteuse de bébé. On les achète à tous les coins de rue et de plus en plus, leur production est industrielle. Mais il existe encore des villages, et Nazarköy le premier, où la fabrication des nazar boncuğu s'effectue à la main, comme au siècle passé. À peine entré dans Nazarköy, rebaptisé ainsi il y a une dizaine d'années, le visiteur est accueilli au son des artisans frappant les morceaux de verre dans la chaleur suffocante des fours à plus de 200 degrés. Le plus doué de ces artisans, Mahmoud Sur, 56 ans, a même été reconnu trésor humain vivant par l'UNESCO en 2012. Comme tous les enfants du village, Mahmoud a commencé très tôt à modeler les petits yeux bleus. Après le service militaire, il s'est fait embaucher dans une fabrique de verre. Ce n'est qu'en 2001, lorsque son usine a fermé au moment de la crise qui frappait le pays à l'époque, que Mahmoud est rentré au village pour y ouvrir son atelier. L'histoire ne dit pas si, avec les milliers de nazar boncuğu éparpillés dans le village, Nazarköy est l'endroit turquie le mieux gardé du mauvais œil. Une chose est sûre, ces artisans ont de plus en plus de mal à trouver des apprentis et désespèrent de former la nouvelle génération. Il en va de la bonne fortune de Nazarköy et peut-être de toute la Turquie.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr rubrique émission et Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.